Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes dans l'épisode bonus de cette semaine. Cette semaine, nous avons fait un épisode bonus pour la section David vous éduque, étant donné qu'elle fait un magnifique 39 minutes de David vous éduque. En fait, David a essayé une nouvelle technique où il nous posait des questions et malheureusement, Kevin et moi sommes tombés dans le panneau et on a répondu. Donc, pour de vrai, c'est un épisode bien intéressant où on parle d'un scénario d'un jeu de guerre historique et de comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans un jeu de Games Workshop, c'est-à-dire dans ce cas-ci, dans 30K. Donc, en espérant que vous allez apprécier cet épisode, on se revoit dimanche pour le prochain épisode régulier. Bonne soirée peinture!
David nous éduque.
David, éduque-nous.
D'accord. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu mon nouveau numéro digital de ma revue préférée. Et j'ai flippé un peu les pages rapidement pour voir ce qui serait intéressant. Puis là, j'ai vu un scénario qui serait intéressant à parler. Puis là, j'ai une proposition à vous faire. Ce que je vous propose, c'est que je vous présente rapidement le scénario, puis après ça, on passe à travers les aspects du scénario, puis ensemble, on essaye de l'adapter à l'hérésie.
OK.
Ça vous tente-tu?
Ouais, j'ai déjà vu des propositions plus indécentes que ça, là.
Mais tu parles-tu du dernier podcast avec Alexandre qui nous parlait d'enregistrer tout nu? Là?
Oh. Entre autres.
OK. Ben, je réponds toujours oui, David, tu le sais. Puis après ça, au pire, je le regrette. Fait que...
J'aime ça t'entendre le dire.
Hey, ça, là, ça, c'est weird. T'aimes ça m'entendre dire oui?
Ben, j'aime ça quand tu me donnes ton consentement.
Ah, tabarouette. Ce podcast-là va devenir un ASMR. Ça sera pas long, là. On parlait-tu d'un OnlyFans la dernière fois? Puis l'autre fois, là, ça s'en va vers ça, tranquillement.
Hey, ça dégénère, votre affaire.
Si tu nous ramènes à l'ordre, Phil, qu'est-ce qu'on ferait si t'étais pas là, hein? Hein?
Qu'est-ce que tu ferais?
Je sais pas.
Tu es en train de me dire de m'en aller?
Ben, est-ce que t'avais besoin d'aller quelque part?
Ouais, bye.
Oh, on a perdu Phil!
Bon, juste pour clarifier le malaise, on savait que Phil, il y avait une commission à aller faire, fait qu'il fallait qu'il parte en plein milieu de l'enregistrement, on savait juste pas quand. Fait que j'imagine que c'est le moment où est-ce qu'il a choisi de partir.
Ça, tu dis ça pour nous sauver la face devant les auditeurs, c'est ça?
Ben, la face pis tout, là. Oh, ouais, pour moi, c'est un ensemble. Ouais, vas-y, David. Là.
Donc, le scénario... Crossing de Bérézina, donc traverser la Bérézina, dans le numéro 121 de Wargame Soldier and Strategies, écrit par David Davies. On était prédestinés, je pense. Je vous fais l'histoire rapide. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur le front russe en 1944, les Allemands sont en pleine retraite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'opération Bagration, ça c'est du côté des Russes. Bagration, c'est un général russe de l'époque de Napoléon, donc un lien avec le napoléonien, bien entendu, les Soviétiques décident de créer un plan qui s'appelle Opération Bagration, et le but, c'est d'attirer les réserves allemandes en faisant des fausses attaques ou en massant des troupes à des endroits où ils ne font pas d'attaque pour qu'ils sortent et ensuite les attaquer de front et sur les côtés, créer une poche puis les éliminer. Ça s'est fait beaucoup sur le front de l'Est, c'est très efficace quand tu finis par entourer une armée au complet. Qu'elle a pu couper de ses ravitaillements, puis là, il n'y a aucune autre armée qui peut venir la libérer, bien, ils finissent par se rendre parce qu'ils n'ont plus d'équipement, ils n'ont plus de nourriture, il n'y a plus rien qui rentre. C'est une tactique souvent utilisée. Donc, en 1944, ça ne va pas bien sur le front russe pour les Allemands. C'est souvent dit, là, encore une fois, s'il y a des historiens de la période qui veulent me corriger, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir s'ils veulent complémenter avec l'information, mais c'est souvent
dit... Je vais clairement te corriger, alors, parce que tu vois, David, que... À cette heure, je connais des affaires.
Et voilà!
Mais pas celle-là, fait que continue.
Mais c'est souvent dit que Hitler, à ce moment-là, il refuse toute retraite, puis il dit « Vous allez mourir jusqu'au dernier en défendant la mère patrie. » Donc, c'est un peu ça qui se passe au début. Puis, les généraux, ça prend du temps avant qu'ils finissent par le convaincre d'accepter un repli. Et il est un peu trop tard quand il finit par l'accepter. Mais à ce moment-là, les troupes partent. Puis comme ils sont talonnés par les Soviétiques, ça ne se passe pas super bien. Deuxième chose importante, les Soviétiques dominent l'espace aérien. Donc, il n'y a pas d'aide de la Luftwaffe, l'aviation allemande qui peut venir. Et ça fait que les replis se font souvent de nuit pour ne pas se faire attaquer par les avions soviétiques.
Mm-hmm.
Et donc, c'est ça, c'est un peu le contexte. Fait qu'avec ça, l'auteur a décidé de faire un scénario qui représente une petite partie de cette opération-là, parce que là, on parle de centaines de milliers, voire de millions de personnes sur un front de plusieurs kilomètres. Lui, il a décidé de faire un endroit où les Allemands doivent traverser la rivière. Il a pris la rivière Bérézina, parce qu'encore une fois, lié avec le napoléonien, c'est là que Napoléon a eu sa dernière bataille en Russie. Là. C'est une bataille très connue, c'est devenu une expression là, en France, là, la Bérézina, c'est quelque chose de catastrophique. Là. Donc, il y a une rivière, les Allemands doivent traverser. Donc maintenant, on embarque dans le bout que je vous ai proposé. Fait que l'idée, c'est que d'un côté de la table, on joue sur la longueur de la table. Donc d'un côté, on a un village, c'est écrit German Retreat, donc c'est par là que les Allemands arrivent pour passer leur retraite, et ils doivent passer tout au bout. Là, on voit la rivière, puis il y a un pont, German Bridgehead, donc le pont allemand, doivent passer tout au bout à ce niveau-là. Entre les deux, il y a une route. Cette route-là, comme tu peux le voir sur l'image, Kevin, ben Max aussi, elle n'est pas droite.
J'aime que la référence, il y a une image, fait qu'on va le dire à Kevin.
Elle n'est pas droite, fait que tu n'as pas de ligne de vue directe sur le pont. Vous allez comprendre pourquoi c'est important plus tard. Puis il y a une forêt dans le fond qui entoure cette route-là. Et il y a l'entrée des Soviétiques soit à gauche, soit à droite, puis ils vont pouvoir choisir par où ils entrent selon les tours. Fait que les Russes arrivent tour après tour. Fait que mettons une table comme ça, mettons qu'on met ça dans la fin du siège de Terra, vous verriez ça comment?
Pour représenter l'assaut du siège de Terra?
Oui, là, on parle, tu sais, parce que je pense qu'il y a un parallèle à faire entre, à la fin, les loyalistes sont en retraite, puis ils vont vers le... Ah, ça y est, j'ai un blanc de mémoire. Dans le dernier livre, ils appellent ça le Sanctum Imperialis, ou...
Ben, le palais, c'est le palais de l'empereur, dans le fond?
Ouais, le dernier bastion du palais de l'empereur. Fait que, tu sais, ils passent à travers des ruines, puis ils nous parlent, encore une fois, des ruines avec la boucane, puis tout ça. Fait que c'est un gros champ de ruines. Puis forcément, il doit y avoir aussi des endroits où les immeubles sont effondrés. Il doit y avoir des crevasses aussi qui ont dû se faire avec les frappes aériennes qui font bouger la terre tellement c'est puissant, ou les frappes de titans. On peut imaginer qu'il y a un pont de fortune qui a été créé puis que les loyalistes doivent passer par là puis ils se font prendre en tenaille par des traîtres.
Mm-hmm. Ben, je pense que tous les arbres qui bloquent le... qui bloque la ligne de vue, là.
Ouais.
Ben, ça pourrait être clairement des ruines de bâtiments ou des tanks remplis ou des piles de corps, par exemple.
Ah ouais, ouais.
Fait que tu aurais clairement... Puis tu sais, la route, elle est sinueuse. Dans le Russe-Hérésie, il y a peut-être un petit peu moins de route parce qu'ils sont tous éclatés par des bombardements orbitales. Donc, les ponts, probablement aussi, mais tu pourrais clairement voir c'est notre seule route pour pouvoir partir en arrière. On a besoin du pont pour amener les tanks. Parce que s'il n'y a pas de pont, ben, il n'y a pas de tank qui passe l'autre bord. Puis on a besoin des tanks pour pouvoir aller jusqu'à la gate, par exemple.
Oui.
Ah, mais ça pourrait aussi être des arbres, dans le sens qu'on parle d'un palais, là, je sais que c'était le palais hyper blindé et fortifié de l'empereur, mais. Qu'est-ce qui dit que c'est pas de passer à travers un des jardins?
Ben oui, pourquoi pas?
Ben oui, t'as raison.
Fait qu'un beau mix de, tu sais, qui mettrait en... tu sais, mettons qu'on fait les décors, là. Un beau mix de, genre, un jardin hyper manicuré, très beau, avec du marbre et tout ça. Et quand même quelques corps, quelques débris, parce que des combats ont eu lieu. Tu sais, ça ferait un décor avec du contraste, mettons.
Ben, c'est des super bonnes idées. Je pense que ça peut nous donner quelque chose de super cool. Fait que je passerai peut-être à la prochaine partie. Il y a un convoi qui rapporte l'équipement. Fait que le convoi, ce qu'on nous dit dans le scénario, c'est qu'ils ont pris des camions, puis ils ont mis tout ce qui restait de vivres, tout ce qui restait de munitions, tout ce qui restait d'équipement, puis ça a l'air qu'ils peuvent, normalement, ça peut transporter des troupes. Mais là, ils te disent spécifiquement dans les règles, ils ne peuvent rien transporter par ce complet. Fait que ça fait partie aussi des objectifs soviétiques de stopper ce convoi-là. Fait que tu as non seulement tes troupes qui sont sur la table qui doivent passer de l'autre côté du pont, mais ce convoi-là. Fait que pour le convoi, est-ce qu'il y a des véhicules qui, selon vous, feraient plus l'affaire dans l'Hérésie?
Répète ça.
Admettons qu'on veut reproduire le convoi, il y a 3 trucks dans le convoi.
Ouais.
Les trucks, en théorie, ils pourraient transporter des troupes, mais là, à ce moment-là, ils sont pleins de munitions, de blessés aussi, ils sont pleins de vivres, en tout cas, tout ce qu'ils peuvent rapporter du front qu'ils ne veulent pas laisser à un ennemi, puis qu'ils vont quand même avoir besoin après. Puis ce convoi-là, c'est aussi un objectif de le détruire pour les Soviétiques. Là.
Ouais.
Donc, mm-hmm. qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans notre boîte à outils de la Russe Hérésie pour représenter ces 3 trucks-là?
Ouais, je pense que n'importe quel rhino fait la job. Là.
Ouais.
C'est un transport, fait que ça fait la job. Tu pourrais aussi avoir des tanks du Astra Militarum Solar Auxilia
ouais.
de l'époque pour pouvoir transporter des troupes, transporter des nobles, transporter des gens importants, transporter des blessés. Un apothicaire qui drive un rhino qui est rempli de blessés pour pouvoir l'amener ailleurs, ça se peut ça aussi. C'est bon, au-delà de ça, là, au-delà des règles officielles, ben, ça serait simple de pouvoir voir aussi un Blood Angel avec son Rhino ou son Land Raider, puis qui est rempli de Solar Auxilia.
Ouais.
Mm-hmm. Parce qu'il veut les amener l'autre bord du mur, il veut les amener de l'autre côté pour pouvoir les soigner. T'sais. Bon, là, à l'époque, au moment où on est rendu de leur hérésie, les humains ont de la misère à juste comme exister. Là. Fait que ça dépend du moment de la Russe Hérésie que tu choisis dans l'assaut de Terra. Là.
Mais c'est vrai que c'était une bonne idée, ça, un Blood Angel qui ramène le plus d'humains possible dans un de ses tanks.
Ah ben ça, pour moi, c'est vraiment un aspect du jeu que je comprends seulement à cause des règles pour balancer les affaires. Là. Mais franchement, tu peux rentrer 10 Space Marines dans un Rhino, tu peux rentrer quoi, genre 20-30 humains? Là?
Ben oui.
Bon, ben, rentrez les blessés là-dedans, pile-les un par-dessus l'autre, puis amenez-les au bord du mur. Là. Je comprends que d'un aspect gameplay, il y a des règlements pour pouvoir le faire respecter, mais si on enlève ces menottes-là, puis qu'on pense plus logiquement, il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dedans. Là. Puis tu pourrais avoir des rebelles aussi là, dans un Land Raider Chaos, un Land Raider traître.
Ouais.
Puis tu as un humain qui décide d'embarquer son monde dedans, puis c'est un autre Space Marine qui conduit, tu sais.
Tout à fait, ben oui.
Mm-hmm. Quand tu parles d'un contingent, moi, je pense à ça, là.
Qu'est-ce que t'en penses, Max?
Ben oui, absolument. J'ai rien d'autre à rajouter. Sinon, je connais pas tant les véhicules, mais, tu sais, la Garde impériale, plus tard, il y a aussi les Taurus, En tout cas, les... Ouais. Qui font quand même des bons véhicules de transport d'un peu n'importe quoi, là.
Taurox,
ouais.
Ouais, ouais. C'est intéressant de mettre, ben oui. Avec leur track, en plus, là.
Mm-hmm.
Un petit convoi de Taurox, ça pourrait être cool. Peint aux couleurs de la Solar Auxilia ou d'une unité de Terra moins connue. Ça pourrait être très cool. Bon, ben c'est cool ça, les gars. Dernière partie, puis une de mes favorites, puis une pourquoi j'aime ça, aller fouiller dans ces scénarios-là, c'est les règles spéciales. Les règles spéciales, je trouve ça le fun, parce que souvent, ça ajoute un petit piment au scénario, ça ajoute une petite twist, puis ça t'aide à raconter ton histoire. Puis c'est pas des règles que tu veux nécessairement mettre de façon sur tout ton jeu. C'est que ces règles sont intéressantes à mettre pour représenter une affaire à un moment donné. Puis je trouve ça le fun d'aller voir ce qu'ils ont fait ailleurs parce qu'après ça, ramener ça dans d'autres jeux, ça peut te donner des situations très intéressantes. Il y a une couple, il n'y en a pas pire de règles spéciales dans celui-là. La première, « The roads are more like dirt tracks ». Dans le jeu de Bolt Action, il y a un bonus si tu es sur la route, tu vas plus vite. Dans la Russe Hérésie, il n'y a pas vraiment de bonus sur la route. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui ferait que ça représente vraiment que la route est encombrée, soit c'est bien de la boue puis tu te pognes dedans, ou c'est bien des débris, ce genre de choses-là.
Ben, je pense que tout ce qui est les règles de difficult terrain, c'est un peu ça que c'est censé représenter.
Oui, ben oui.
Fait que, tout ce qui est je t'enlève deux à ton mouvement, je réduis de moitié, tout dépendant de la version de Warhammer que tu voudrais bien jouer. Là. Mais au même principe qu'il y a des règles qui disent que, mettons, dans ma game avec Simon, ben, on a pogné un terrain difficile avec mon tank, puis mon Rhino il a été immobilisé durant tout un tour.
Ouais.
Mm-hmm.
La façon dont tu vas placer tes terrains aussi, il y a des murs qui vont être infranchissables. Fait que tu pourrais avoir des murs en ruine, mais c'est pas toute la ruine qui est un terrain difficile ou un terrain dangereux. C'est des bouts de la ruine qui sont pas utilisables parce que les murs sont trop hauts puis tu peux pas passer à travers parce qu'ils sont trop renforcés, par exemple. Puis d'autres parties qui peuvent être utilisées, mais ça fait toute partie de la même ruine.
Ah, c'est cool, ça. Ben oui.
Fait que tu bâtis ton morceau de terrain dans l'idée qu'il y a des parties qui vont pas pouvoir être utilisables parce que tu peux pas passer à travers, à moins que tu sois un tank de telle grosseur, par exemple. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a scié en deux, là. C'est les murs. Mettons, je donne un exemple, là, mais l'Imperial Knight qui ne peut pas passer à travers un bastion quand que clairement que l'Imperial Knight est plus gros que le bastion. Je commence à passer à travers, là. Juste comme pourrait passer à travers. Ce serait des
règles pour inventer.
Non, mais c'est ça, tu sais, comme passe dedans, puis on va passer à autre chose. Tu sais, dans les romans, le Space Marine passe à travers le mur en le chargeant. Pourquoi est-ce que l'Imperial Knight ne peut pas passer à travers un bastion? Ça, je le comprends pas.
Faut que tu chantes. Ou tu chantes la petite chanson « Je m'en vais chasser le lion » là. Puis... Désolé pour les gens qui n'ont pas d'expérience de chansons de camp de vacances. J'imagine que si vous googlez « Je m'en vais chasser le lion », vous allez avoir...
Max, pour vrai, je pense que tu peux aussi t'excuser pour les gens comme moi qui ont une expérience de camp de jour et qui essayaient de l'oublier. Et là, maintenant, c'est painfully obvious que j'ai cette expérience-là et que je ne pourrais pas dormir sans la chanter. Merci!
Plaisir!
Ça répond à ta question, David?
Ben oui, tout à fait. Fait que, prochaine règle spéciale, Heavily Laden Trucks. Fait que dans le fond, ça vient un peu complémenter ce que je disais tantôt. Les véhicules du convoi sont trop pleins de blessés, trop pleins de munitions d'équipement. Ils peuvent embarquer donc personne. Et dans Bolt Action, ce que j'en comprends, c'est que tu donnes des ordres à tes unités. Ça rappelle un peu le Command and Control, commandement et contrôle qu'on voyait dans l'épisode bonus.
Tu veux dire d'avion rampant?
Non, dans général d'armée.
je faisais une joke. En... Je voulais juste plugger lion rampant quelque part.
Ah, c'est bon! fait que donc, ils disent que tu peux juste donner un ordre advanced à ton convoi. Là, malheureusement, j'ai pas lu avant notre épisode les règles de Bolt Action, mais j'imagine que ça veut dire que ton véhicule, tu donnes l'ordre d'avancer puis ça doit influer sur son tir. C'est quoi l'équivalent? Je pense qu'on a un équivalent dans l'hérésie, ou en tout cas dans la 9e édition, on a un équivalent qui est la course. Est-ce que je me trompe?
Ouais, tu as la course qui est toujours possible. Il y a toujours les résultats des tanks là, qui sont toujours disponibles. T'sais, tu peux comme diminuer le mouvement du tank, les weapons sont plus utilisables.
Ouais. Ouais.
Ce genre d'affaire-là, tu sais. Fait qu'il y aurait toujours moyen aussi de pouvoir dire, mettons qu'une unité d'infanterie qui est trop pognée puis qui est en dedans ou whatever, ben, elle peut pas utiliser ses guns. Tu aurais comme moyen de pouvoir transposer certaines règles qui sont dans les tanks sur d'autres choses et vice-versa.
Ben là, c'est vraiment juste tes trois trucks. Fait que tes trois, mettons, tes trois Taurox plein de blessés ou tes trois Rhino plein de blessés. Ce que je verrais, en tout cas, de ce que j'en comprends, c'est vraiment, leur but, c'est de tracer puis de traverser le pont. Fait que t'es pas supposé te promener avec, puis t'es pas supposé aller attaquer des unités avec.
Tu pourrais mentionner qu'ils ont juste une assez grande quantité d'essence, ou de fuel, ou de plasma, ou de whatever, vu la charge, vu le temps que ça prend depuis la dernière fois qu'ils ont été chargés, que tout ce qu'ils ont comme essence, c'est pour pouvoir faire le chemin de A à B. S'ils d'aller ailleurs, ils peuvent pas se rendre à B alors. Fait que si tu veux prendre ton Land Raider puis l'amener ailleurs, ou ton Taurox puis l'amener ailleurs, tu peux bien, mais tu viens de perdre un de tes objectifs.
Ah, c'est intéressant, ouais.
Ça peut être un choix tactique, mais ça te coûte ton objectif. On oublie souvent le fait que nos bonhommes, ils ont de l'essence ou du plasma ou whatever, puis ils ont des munitions aussi. Même chose pour des gars, là, tu pourrais dire, genre, t'as assez de balles pour que tant de tes unités puissent tirer. Choisis.
Ouais.
C'est du chainsaw, gars.
Dans la première version de l'hérésie, dans... il y avait un petit système de jeu, j'ai oublié le nom, mais c'était comme pour jouer sur East 25 après, à la grosse bataille. Là, tu étais limité dans tes ressources, puis là, tu pouvais avoir un résultat où tu n'avais pas assez de munitions, puis ça jouait sur ta capacité de tir hein, ta prochaine partie.
Non, c'est cool, ça.
Ouais, mais je pense que, par contre, le plus simple dans ce que tu décris, David, c'est effectivement d'obliger ces trois véhicules-là à toujours, je vais dire, courir, là, mais il doit y avoir un équivalent pour les véhicules, là, donc... à ne pas pouvoir tirer, à juste pouvoir aller all out. Est-ce que c'est parce que c'est l'ordre qu'ils ont eu d'absolument rejoindre le point qu'ils doivent rejoindre, ou juste parce que, bon, peut-être pas si c'est des Space Marines, mais si c'est des Solar Auxilia qui sont paniqués puis qu'ils se sauvent à toute vitesse, ils ne vont pas obéir aux ordres de tirer ou se battre, là. Ils sont juste complètement en train de sauver leur peau, là.
Ben, tu sais, un Space Marine, ça peut être paniqué aussi. Là, on le voit là, dans les livres de Russ Hérédi. Mettons, quand Sanguinius se fait rentrer dedans, là, puis qu'il se fait... Je ne vais pas spoiler personne, là. Mais, tu sais, on le sait qu'il va vivre un moment difficile, là. On le sait, là. Le Russ Hérédi, ça ne finit pas bien pour Sanguinius. Je m'excuse pour les gens qui ne le savaient pas, mais il y a une image depuis 1985, genre.
Ouais. Non, mais là... moi, on m'a toujours dit que c'était des nonos, là. Des Charles Nono Fear, là.
Oh non!
Comment, vous l'aviez jamais entendu? Moi, à chaque fois que quelqu'un dit ça, ça résonne.
En 10 ans de travail chez Games Workshop, je ne l'ai jamais entendu. Tu viens de me faire la première joke de Space Marine que j'ai jamais entendue, puis il fallait bien que je travaille plus là pour que quelqu'un me la fasse. Mais non, mais sans faire, il y aurait moyen que des Space Marines soient paniqués parce qu'ils sont dans un devoir absolu d'aller protéger leur primarque, puis ça dépasse l'ordre qu'ils ont reçu. C'est genre, je vais pas suivre l'ordre qu'on m'a donné parce que là-bas, il y a mon primarque, puis il faut que j'aille le rejoindre au plus maudit, sinon il va mourir.
Ouais.
Ouais, c'est bon.
Il y a moyen aussi.
C'est une bonne idée, ça.
J'espère que tu les as pris en note, hein?
C'est tout là, dans ma tête.
J'ai une campagne de Lorus Hérési, je m'attends à ce que tu aies des affaires à me proposer.
Ah, ça serait cool. Les deux prochaines, je vais les mettre ensemble. C'est Die Brücke, en fait, c'est le pont en allemand, et Démolition. En gros, le pont a été construit en 1941. Il est fait en bois. Ça a été pendant l'invasion allemande, ils l'ont fait à ce moment-là sur les ruines de l'autre pont que les Russes ont défaites.
C'est déjà très Horus Hérési.
Fait que c'est de là que vient l'expression bois, je m'en sac comme l'an 40.
Exactement.
Oh, wow!
Wow!
Ouais.
Hey,
t'es en feu, hein?
Ouais, c'était sur un plateau d'argent, de bois.
Ouais, un plateau de bois.
Puis là, ils disent que le pont a été endommagé par des tirs de canon, ce genre de choses-là. Donc, il y a juste un véhicule à la fois qui peut traverser. Parce que ça, c'est intéressant, ça limite le joueur qui fait la retraite, le joueur loyaliste dans l'hérésie. Il ne peut pas tout essayer de faire passer en même temps. Si les trois camions arrivent en même temps, les trois rhinos, les trois Torox, ils doivent y aller un à la suite de l'autre.
OK.
Et démolition, l'idée, c'est que les Allemands, une fois qu'ils sont passés, ben, ils vont faire péter le pont. Fait qu'ils ont mis des charges explosives. Là, on nous dit, c'est un flamethrower pack, le pack d'un lance-flamme. Bon, ouais. Les ingénieurs, il y a une équipe d'ingénieurs, là, tu as une idée que c'est des ingénieurs qui sont là, qui sont supposés activer le pack de lance-flamme quand c'est le temps de faire péter le pont. Ben, c'est sur un 2 et plus que ça marche. Ça se passe assez bien.
Mm-hmm.
Sauf que si les Soviétiques, donc nos hérétiques, tirent sur les ingénieurs, ceux qui s'occupent de la bombe, ils ont des chances de toucher la bombe.
Ouh.
Ah!
Fait que là, dans les règles de Potashin, ils disent si la section des ingénieurs souffre d'un dégât spécial, le joueur, là, c'est là que je comprends un peu moins la règle, mais le joueur soviétique peut choisir soit que ça fasse exploser le pont, mais lui, dans ses points de victoire, il ne devrait pas vouloir ça, ou que ça brise la bombe. Là, c'est pas écrit si le joueur allemand peut réparer la bombe. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris dans le scénario, parce que je trouve que c'est beaucoup à l'avantage du joueur soviétique, alors que ça devrait être risqué pour lui de tirer.
Et voici, mesdames et messieurs, vous avez compris que David Power Game, les jeux historiques.
Ah, Ouais.
T'as des règles comme ça qui existent déjà dans. Horus Heresy, peut-être un petit peu moins, mais il me semble que dans Warhammer 40 000, t'as des règles par rapport à si tu tires en arrière d'un plasma conduit, par exemple. Oui. Je pense qu'il y a des règles comme ça dans Zone Mortalis. Si dans les autres terrains, il y a des pipes qui sont des pipes qui transportent du plasma ou de l'énergie ou du fuel ou whatever, name it. Là. Si tu tires à côté de ça, il y a des possibilités que ça explose et que ça blesse les gens qui sont autour.
Ah, c'est, ben, ça serait une bonne, un bon endroit où aller chercher, c'est bon ça.
Ouais.
Donc tu dis le plasma conduite.
Oui, plasma conduite. Puis fut un temps, si je me rappelle bien. Si tu avais le plasma conduit ou une pipe de feu ou whatever dans la 6e ou la 7e édition de Warhammer 40 000, puis tu avais un flamethrower, tu pouvais utiliser un plus gros template ou tu pouvais tirer plus loin, par exemple. Parce que tu utilisais, dans le fond, le fuel ou les flammes qui étaient là pour pouvoir booster le lance-flamme.
OK, c'est cool, ça.
Oui.
Là, tu vois, ça fait un choix intéressant pour le... Ben, ça donne un choix aux joueurs hérétiques dans notre cas, parce que il veut pas péter le pont, mais il veut éliminer les unités loyalistes. S'il pète le pont avant qu'il ait tout passé, ben, les unités peuvent plus passer, fait que là, après ça, il peut s'en donner encore joie.
Ouais.
Fait qu'il y a peut-être un choix de est-ce que je sacrifie le pont pour vraiment comme continuer mon massacre, ou je veux garder le pont parce qu'après ça, moi, je passe avec mes unités. T'sais.
Ouais, puis en même temps, il y a toujours un drawback quand tu fais ce genre d'affaires-là, tu sais. Dans les règles de l'époque, effectivement, quand tu faisais ça, il y avait des chances que les pipes explosent.
Ouais.
Fait que tu te mets en danger toi-même pour pouvoir faire ça. Là, toi, dans ton exemple, c'est tu te mets en danger de ne pas réussir ta game si tu utilises ça. Fait que ça peut être cool.
Non, mais l'idée de faire exploser le pont, c'est bien, mais moi, si je reviens à faire passer une unité à la fois... Puis, je trouve ça intéressant, un tank à la fois, mais je trouve ça le fun. Oui, OK, ça, entre guillemets, ralentit si t'as tes trois tanks objectifs, mais si, dans tes autres unités, t'as d'autres tanks, moi, je trouve que ça rajoute une étape de est-ce que je vais vraiment au plus vite puis je fais passer ces tanks-là en premier pour qu'ils aillent au plus vite, ou je les park un peu sur le côté puis je fais passer des tanks qui vont aller se battre, qui vont, tu sais...
Oh,
aller protéger, supporter, donner du cover, mais ça me ralentit. Tu sais, il y a tout un calcul qui peut être bien intéressant là aussi.
Ah, vraiment?
Ouais. Hey, mais on a quand même donné pas mal de belles options à beaucoup de gens. Tu sais, autant le joueur historique peut essayer quelque chose que le joueur fantastique de Warhammer. Puis, tu sais, tu pourrais le faire dans Age of Sigmar aussi.
Oui.
Ça se ferait. Là, je veux dire, il y a de l'énergie, il y a des esprits. Il y aurait moyen de pouvoir faire ça là-dedans aussi. Là.
Ah, les ponts étaient moins solides.
Je pense qu'on sous-estime les ponts, mais ça peut faire des... Ben, si tu joues tout le temps avec un pont, ça peut devenir répétitif, mais c'est quelque chose, si tu ne joues pas souvent avec, ça peut être intéressant à rajouter dans un scénario.
Ça donne une autre dynamique.
C'est ça. Pour te changer un peu les idées, faire quelque chose de plus intéressant. Soit il est derrière toi, faut que tu le protèges, ou soit il est devant toi, faut que tu le traverses. T'sais. Ce genre de choses-là. Deux dernières règles spéciales en rafale. L'avant-dernière, c'est The Retreating German Column. Ça, je pense que c'est plus difficile. Je suis pas sûr qu'il y a quelque chose à représenter là, parce que dans le fond, ça fait juste dire que toute l'armée allemande, l'armée allemande arrive au tour 1, puis dans son bord de table. Fait que j'imagine que ça a un lien avec la dynamique de Bolt Action, où peut-être toutes tes unités ne rentrent pas nécessairement au premier tour. Ça, on a moins ça dans l'hérésie. Par contre, pardon. La dernière règle est très intéressante, le déserteur. Ça fait référence à une vraie tactique utilisée par les soviétiques qui s'appelle la maskirovka. Je m'excuse pour les russophones si je l'ai prononcé tout croche, là, mais dans le fond, c'est une tactique qui utilise la désinformation, l'infiltration et les déserteurs ennemis. Et qu'est-ce qui arrive dans le scénario? C'est qu'il y a un déserteur allemand qui est placé dans le village où les Allemands commencent. Il n'est pas compté comme étant dans l'armée soviétique, il n'est pas compté comme étant dans l'armée allemande. Mais à 6 pouces autour de lui, il réduit le moral de 1 des unités.
Hmm.
Parce que, dans le fond, lui, apparemment, c'est arrivé sur ça arrivait vraiment sur le front Est, il envoyait du monde comme ça qui disait « Oh non, les Russes sont devant, ils ont bloqué le pont ou le pont est détruit. » C'est pour ça que tu n'as pas de ligne de vue directe sur le pont. Et dans Brute Action, avec quand ton moral est baissé de 1, quand tu veux te donner un ordre et que ça marche, c'est sur ton moral que tu le fais, si j'ai bien compris. Donc, ça se peut que les unités soient pinées. Donc, bouge pas ce tour-là. Donc, dans un scénario qui est basé encore et même sur la vitesse puis le, je me dépêche à sortir mon monde, si ton unité, elle bouge pas, c'est pas le fun.
Non, c'est ça. C'est comme une pénalité inhérente au fait que tu es censé jouer, en train de jouer un scénario que tu as besoin qu'il bouge.
C'est ça. Fait qu'un déserteur qui est là qui sape le moral de tout le monde. Qu'est-ce qu'on met dans l'hérésie de Russe pour ça?
Bon, moi je dirais Harryman, mais bon. Il est pas obligé d'être Black Legion, elle n'existe pas encore à ce moment-là.
Ah, okay,
mais
si
il y a quelque chose qui sape mon moral, moi c'est Harryman. ou Magnus.
Erebus?
Non, lui je le trouve super motivant. Lui, il fait bouger les choses. Tu vois que lui, c'est un acteur de changement. Je l'aime, moi. C'est pas, David. C'est pas.
Fait qu'on met Harryman là. Qu'est-ce qu'il fait, Harryman? Comment on représente là, le fait que ça peut empêcher les unités de bouger ou ça peut les faire douter? Ou...
Ben, mettons, je me référais à une règle qui existe déjà, mais dans Age of Sigmar. Le Changeling... dans Age of Sigmar, je ne sais pas dans Warhammer, mais dans Age of Sigmar, il commence déployé dans une des unités ou pas loin d'une des unités. Et il ne peut pas être attaqué tant aussi longtemps qu'il n'a pas lancé un spell ou il n'a pas fait quelque chose. Ce qui fait en sorte que... je pense que c'est encore sa règle, mais je ne suis pas sûr. Ce qui fait en sorte qu'il est capable de pouvoir t'enlever des command points où tu ne peux pas utiliser un spell, où tu ne peux pas charger, où tu ne peux pas... Il te coupe littéralement de tes options sur une de tes unités. Et il ne peut pas être visé tant aussi longtemps qu'il ne t'a pas rien fait. Fait que s'il ne casse pas de spell ou il ne te charge pas, ben tu ne peux rien faire. Fait que tu as littéralement une unité, une fois de temps en temps, qui ne va pas faire ce que tu lui demandes. Parce que son moral est complètement vidé. Parce que les ordres qu'il reçoit sont pas bien communiqués, parce que c'est confus, parce qu'ils sont déprimés, peu importe la raison.
C'est une bonne idée parce que le changeling il est dans 40 000 aussi.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je donnais ce règlement-là. Par contre, je suis pas au goût du jour par rapport à cette armée-là parce qu'habituellement, j'ai tendance à plus la tuer puis. j'ai pas checké dernièrement, là, mais c'était une des règles, si je me rappelle bien, au début d'Age of Sigmar.
Mais c'est une bonne idée, mais est-ce que tu ferais que l'unité de loyaliste est complètement stallée ou tu ferais un jet, tu l'adoucirais un peu pour le scénario?
Moi, je dirais qu'elle aurait probablement pas le droit de faire de réaction.
Ouais, c'est bon.
Ah, ouais.
Mais comme ça, tu la coupes pas de toutes ses options, mais tout ce qui est réactionnaire, ce qui demande une flash de seconde de réaction, est pas possible de pouvoir être fait parce que c'est trop lourd, le moral est lourd, c'est difficile de se concentrer, c'est difficile de comprendre qu'est-ce que le gars nous demande parce qu'on a déjà trop de voix dans notre tête qui sont en train de nous dire de tout lâcher. Fait que de comprendre ce que le commandant dit à ce moment-là, c'est juste comme trop d'efforts.
OK.
Oh, c'est nice.
Ouais, c'est une super bonne idée.
J'en ai plein des idées de même. Tu vois, faut juste pas me demander qu'est-ce qui s'est passé en 1939, mais sinon...
Bout.
C'est ça.
Qu'est-ce que t'en penses, Max?
Oui, non, absolument. Sinon, des réfugiés, des civils ou encore dépendamment de l'armée loyaliste, si c'est des Space Marines, ben, ça peut être des Solar Auxilia. Mais mettre des civils, là, des civils qui fuient le champ de bataille. Là. Il manque de civils sur nos champs de bataille. Ouais.
Je suis d'accord. Mais ça, c'était une des choses. Tu sais, là, je sais que le podcast, il est tiré. Mais c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé de notre campagne de Plague War, c'est que moi et Phil, on jouait des humains.
Oui.
Puis pour vrai, c'était vraiment cool de voir à quel point il y a un solide step. Et là, je parle même pas de règles ou d'abusivité, là, okay? C'est pas de ça que je parle. Là. Il y a vraiment un step entre le gars qui joue Ultramarine, qui était François, puis moi et Phil qui jouait des humains.
Mm-hmm.
La boîte à outils n'est pas la même. Il faut que tu fasses attention à bien des choses. Et Space Marine, il se mange un coup de bolter, tu fais, écoute, au pire, j'ai mon armure, là, c'est pas si pire. Là. L'humain, qui sont 5 plus d'armure t-shirt, là, ouais. Le bolter, il sent passer. Là. Fait que, il y a quelque chose de. On pourrait se faire un épisode où est-ce qu'on pourrait parler de qu'est-ce qui fait du bien dans Warhammer, puis à quel point est-ce que c'est le fun, des fois, de pas jouer l'armure qui est full le Space Marine ou le Stormcast, puis il y aurait plein d'autres exemples à donner.
Clairement.
Mais quand on enregistrera là l'épisode qui va parler du pilier du jeu, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus.
Oui.
Une bonne idée.
Ouais.
Ben écoutez, c'était pas mal ça pour le scénario. Je trouve qu'on a eu des super bonnes idées. On a été capable de s'inspirer de ce qui était fait pour le scénario dans Bolt Action, mais aussi d'aller chercher dans Age of Sigmar, d'aller chercher dans Warhammer 40 000, d'aller chercher des vieilles règles de décor, des concepts de personnages qui, comme le Changeling. Puis pour moi, ça montre qu'on peut toujours partir, s'inspirer de scénarios d'autres jeux, d'aller chercher des petits trucs spéciaux pour justement donner un peu de sel au scénario qu'on veut créer ou à ce qu'on veut essayer de reproduire sur la table pour essayer de faire des trucs plus narratifs.
Puis dire que Phil a manqué tout ça.
Mm-hmm. Oui.
Mais même que moi, il serait d'accord avec tout ce que j'ai dit. J'ai pas besoin qu'il soit là. Je sais que Phil, il aurait dit exactement ce que j'aurais dit. Fait que merci Phil d'avoir appuyé tout ce que j'avais à dire. David. T'avais-tu d'autres choses à rajouter?
Ouais, peut-être mon dernier commentaire rapidement pour vous dire les points de victoire sur ce scénario-là. Les Soviétiques, donc les traîtres, détruire une unité, 2 points de victoire. Détruire les trucks du convoi, 3 points de victoire. Donc les trucks du convoi sont un peu plus juteux. Et garder le pont intact, c'est juste 1 point de victoire. Fait que peut-être la décision est plus facile à prendre.
Ben ouais.
Du côté des Allemands, c'est pas tout à fait la même chose. Donc 2 points de victoire par unité ennemie détruite. 2 points de victoire par truck qui est traversé de l'autre bord de la rivière. Donc, tu as peut-être un choix à faire. T'sais. Ça vaut 3 s'il détruit pour les Russes. Ça vaut 2 si toi, tu le mets de l'autre bord. Et 3 points de victoire si tu fais péter le pont.
Ah!
Mm-hmm.
Et voilà.
Ben merci beaucoup, David. Encore une fois, très instructif. Parlant d'instructif, on est rendu à la fin de l'épisode, tout le monde.